Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez donné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, donc nous en sommes toujours dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 21. Verset 28, donc sur le polycopier qui contient les commentaires des pères de l'Église des chapitres 21 à 25 de Saint Matthieu, à la page 7. Donc voilà le texte que nous allons commenter à partir des pères de l'Église. Donc une parabole de notre Seigneur, que vous ensemble. Un homme avait deux fils et s'approchant du premier, lui dit « Mon fils, allez travailler aujourd'hui à ma vigne. » Et celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, touché de repentir, il y alla. S'approchant ensuite de l'autre, il lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « J'y vais, Seigneur, il n'y alla point. » Lequel des deux a fait la volonté de son père? Il lui dit le premier. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas repentis ensuite pour croire en lui. Alors évidemment, les deux jeunes dont on parle ici, les deux fils, représentent quelque chose. Voilà ce que disent les pères de l'Église. Le fils aîné représente le peuple des gentils, et le plus jeune, le peuple des juifs. Car depuis le temps de Noé, disent les pères, il y avait des gentils. Les gentils, je vous rappelle, sont les non-juifs. Le père vint au premier fils et lui dit d'aller travailler aujourd'hui à la vigne. Il lui parla non pas face à face comme un homme, mais directement dans son cœur comme Dieu, lui instillant la compréhension par les sens. Pour travailler dans la vigne, il faut en justice plusieurs personnes, car une personne seule n'est pas suffisante pour le travail. Donc Dieu parla d'abord aux gentils qui avaient la connaissance de la loi naturelle, en leur disant « Allez travailler ma vigne », mais ils ne vinrent que plus tard, à la venue du Sauveur. Après avoir fait pénitence pour travailler dans la vigne de Dieu, rattraper par leur travail l'opiniâtreté de leur refus, mais toucher de repentir, il y a là. Donc vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit très bien dans ce texte, laisse la bonne volonté s'établir, même le premier fils qui refuse d'obéir, qui répond à son père, je ne veux pas, mais qui ensuite, touché de repentir, il va quand même, eh bien, le père pardonne le fait qu'il a été malmené par son fils. Ce fils a été désobéissant et injurieux à son égard, mais puisqu'il est quand même allé travailler, le bon Dieu pardonne. Donc le second fils, au contraire, est le peuple juif qui dit à Moïse, « Tout ce que le Seigneur nous a dit, nous le ferons. » Mais il ne vint pas dans le royaume de Dieu des gentils ou de l'Église présente dans laquelle les gentils entrent avant les juifs car ils sont prêts à croire. Donc le deuxième fils, celui à qui notre Seigneur Jésus-Christ adresse la parole, à qui le père de famille adresse la parole en deuxième, le représente, Le peuple juif. Vous voyez, c'est pas très 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 clair dans les pères. En plus, tous les pères ne disent pas la même chose. Les publicains représentent, eux, tous les hommes pécheurs. Parce qu'à la fin, notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 31, dit « Je vous le dis, les publicans, les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. » Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que disent les pères, les publicains représentent tous les pécheurs, les prostituées, toutes les femmes pécheresses. L'avarice est le vice le plus présent parmi les hommes, la fornication un parmi les femmes. Car la vie de la femme se passe dans l'oisiveté et la réclusion, ce qui va augmenter les tentations, alors que l'homme constamment occupé avec des occupations actives va tomber plus facilement dans le piège de l'envie et pas si facilement dans la fornication. Car l'anxiété de toutes ces occupations masculines écarte les pensées de plaisir qui entraînent plutôt les jeunes et oisifs. Je ne sais pas si les pères de l'Église diraient la même chose aujourd'hui, il me semble. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que la concupiscence qui travaille le plus avec le cœur des hommes est certainement la concupiscence de l'orgueil et aussi la concupiscence de la chair. Alors que la concupiscence qui travaille le plus avec le cœur des femmes, c'est certainement la concupiscence des yeux. Voilà, c'est discutable, mais il me semble que ce texte là a pris de l'âge, et ce texte des pères ne représente plus exactement ce qui se passe actuellement aujourd'hui. On voit d'ailleurs très bien dans les différents textes que je vous propose ici sur le polycopier que les pères de l'Église ont des opinions différentes sur cette parabole. D'autres pères en effet pensent que cette parabole ne regarde pas les gentils et les juifs, mais plus simplement les bons et les pécheurs. Donc les pécheurs, par leurs mauvaises actions, ont rejeté le service de Dieu, ils vont revenir vers lui après avoir reçu le baptême de Saint Jean-Baptiste. Les pharisiens, eux, qui manifestent une justice extérieure, se vantant d'accomplir la loi de Dieu, méprisent le baptême de Jean et ne suivirent pas ses préceptes. Donc ça représente peut-être le fils qui prétend vouloir faire la volonté de son père et qui en fin de compte ne bouge pas le petit doigt pour le faire. Au début, les prêtres seuls professaient le service de Dieu, alors que le peuple vivait dans le siècle. Mais avec le temps, le peuple repentant revint vers Dieu, alors que ses prêtres devenaient impénitents. Donc l'aîné des fils représente le peuple qui n'est pas fait pour les prêtres, alors que les prêtres sont faits pour le peuple. Donc voilà une autre explication des pères. Le premier fils qui refuse au début d'obéir à son père, mais qui se repent et finalement obéit en se rendant au travail, représente justement les publicains, les prostituées. Ils rejettent d'abord par leur péché la volonté et la loi de Dieu, mais après avoir entendu la prédication de Saint Jean-Baptiste, ils changent d'esprit, firent pénitence et vécurent chastement et justement selon la loi divine. Donc c'est le symbole des convertis qui ne sont pas touchés par l'appel du bon Dieu au début. Donc lorsque le bon Dieu les appelle à la sainteté, ils refusent, je ne veux pas, disent-ils, mais ensuite touchés de repentir, ils disent là. Ça veut dire que ces personnes, justement, après un certain temps, dans le refus de la loi du bon Dieu, vont finir par se convertir et suivre la loi du bon Dieu. Donc le deuxième fils, qui lui prétend obéir à son père, le deuxième fils, je rappelle, celui qui dit « J'y vais Seigneur, et n'y alla point », ce deuxième fils, qui renie sa parole et ne va pas travailler, représente les scribes et les pharisiens qui ont toujours à la bouche la loi de Dieu, se prétendant ses plus zélés et plus religieux pratiquants, mais qui ne remplissent pas leurs devoirs et agissent contre la loi divine par leur luxure, leur rapine et leur usure. Ils provoquèrent ainsi la grave colère de Dieu contre eux, non seulement à cause de leur malice, mais encore de leur hypocrisie et feinte observance de la loi. Donc le bon Dieu juge les cœurs, pas les extérieurs. Et donc ce texte, à mon avis, explique bien que le bon Dieu, dans sa miséricorde, pardonne immédiatement aux pécheurs repentants. Donc le jeune fils qui refuse d'obéir à son père, qui a juré son père en refusant son ordre, mais qui a ensuite touché de repentir et y alla, montre le symbole du pécheur, si vous voulez, qui d'abord refuse la loi du bon Dieu, écarte le bon Dieu de son âme, renvoie le bon Dieu hors de l'âme, mais qui après, touché de repentir, va se confesser, reprendre au Seigneur Jésus-Christ en son âme et obéir à sa loi. Autre interprétation, en bas de la page 7, les publicains et les prostituées représentent les gentils, qui furent d'abord esclaves des idoles et des vices, mais qui se convertirent plus tard à la prédication des apôtres et servirent Dieu et la vertu. Les scribes et les pharisiens sont les juifs qui prétendaient adorer Dieu, mais en réalité le méprisaient en rejetant le Christ envoyé par lui et durcirent leur cœur par cette perfidie. Donc c'est le deuxième fils qui répond « J'y vais Seigneur », qui prétend aimer notre Seigneur, mais il n'y va pas, il n'obéit pas à son Père, parce que leur cœur est dur. Et du coup, bien, ils se moquent de Dieu en prétendant le suivre, mais ne le suivant pas lorsqu'il vient à eux. Donc c'est là, ça représente le peuple juif qui était supposé être le premier peuple à répondre à l'appel de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils répondent au début, j'y vais Seigneur, ils prétendent obéir, et en fait ils n'y vont pas. Parce que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, autant imparti, au moment où après l'Annonciation, donc il unit sa divinité avec notre humanité, dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, et bien lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, il choisit ses apôtres, il choisit ses disciples, il prêche pendant 3 ans de vie publique, et bien les juifs et les pharisiens, les scribes et les pharisiens refuseront l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, et bien qu'ils avaient prétendu obéir, ils avaient dit j'y vais Seigneur, ça veut dire c'était le peuple qui était en charge de la loi de Moïse, il n'y en a point, ça veut dire que dans la pratique, ces gens qui étaient en charge de la loi de Moïse sont précisément ceux qui vont rejeter la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une petite note en haut de la page 8, tropologiquement, c'est-à-dire moralement parlant, les chrétiens ordinaires et les laïcs qui, à partir du désir de la sainteté, gardent les conseils évangéliques, bien qu'ils ne soient pas tenus par vœu ou par profession, sont comme le premier fils. Les prêtres, moines et religieux qui sont sous vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, mais qui les violent, sont comme le deuxième fils. Pourquoi ? Parce que les prêtres qui sont tenus à la sainteté, à cause de leur mission, et de ces 3 vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, dans la pratique, font comme le deuxième fils, qui prétend suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui dans la pratique n'y va pas, ne fait rien du tout. Alors, au contraire, ceux qui, par désir de sainteté, gardent les conseils évangéliques, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, sont comme le premier fils, qui prétend ne pas obéir, puisqu'il dit au début, je ne veux pas aller travailler à la vigne de mon père, mais ensuite, touché de repentir, il y a là, à tout péché, miséricorde. C'est la conclusion. Voyons les versets 33 à 44. Écoutez une autre parabole, dit notre Seigneur. Il y avait un père de famille qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis la loua des vignerons et partit pour un pays lointain. Or, lorsque le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recueillir les fruits de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Ils leur envoyèrent encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les traitèrent d'eux-mêmes. Enfin, il leur envoya son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux « Voici l'héritier, venons, tuons-le et nous aurons son héritage ». Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Pendant que le maître de la vigne sera venu, que fera-t-il à ses vignerons ? Ils lui dirent, il fera périr misérablement ces misérables, il louera sa vigne à d'autres vignerons qui rendront les fruits en leur temps. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient ? Celle-là même est devenue la tête de l'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela, c'est une chose admirable à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et qu'il sera donné à une nation qui en produira les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Dans la première partie de ce texte est facile à interpréter. Donc ce père de famille qui plante une vigne, qui l'entoure d'une haie, qui creuse un pressoir, qui bâtit une tour, qui la loue des vignerons, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, donc, qui autant des fruits de la vigne vient récupérer les fruits de cette vigne, et les vignerons se saisissent de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent un autre. Ça, ça représente tous les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament, quand tous étaient persécutés par le peuple juif, qui vont tuer beaucoup d'entre eux. Alors, Dieu le Père va envoyer son propre fils, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il envoya son fils en disant, « Ils auront au moins du respect pour mon fils. » Mais les vignerons, voyant le fils, se dire, voici l'héritier, tuons-le et nous aurons son héritage. Et s'étant saisi de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Cela représente évidemment la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mis à mort par ceux qui étaient supposés travailler pour lui. Donc cette mise à mort de notre Seigneur Jésus-Christ représente justement la révolte des vignerons qu'il est supposé garder le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, le peuple juif de l'Ancien Testament, et qu'au lieu de remplir leur mission, eh bien, on coupait ce peuple de Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il est arrivé, et qu'au lieu de tomber à genoux pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, refuse notre Seigneur Jésus-Christ, le condamne à mort, le font mourir, et attendent toujours, même aujourd'hui, attendent toujours l'arrivée du Christ qui est en fait déjà venu. Et donc ils peuvent l'attendre longtemps, il ne reviendra pas avant la fin du monde. Alors, voyons un petit peu les commentaires des pères de l'Église sur ces sujets. Dieu a planté une vigne, dont parle Isaïe, la vigne du Seigneur des armées, la maison d'Israël, il l'a entourée d'une clôture. Donc cette vigne représente aussi notre âme, représente pas simplement le peuple choisi ou l'Église catholique, mais représente chacune de nos âmes, chacune de nos âmes est comme une vigne qui doit donc procurer du fruit en son temps. Et donc le bon Dieu protège cette vigne, cette âme avec une haie, un pressoir, il a bâti une tour, il a loué des vignerons et il part dans un pays lointain. Donc ce vigneron, c'est chacun d'entre nous, donc on est en charge de notre vie, en vigne on est en charge de notre âme. Et il faut utiliser tous les systèmes de défense que le bon Dieu a passé autour de notre âme, cette haie, ce pressoir, cette tour, pour protéger notre âme des envahisseurs, c'est-à-dire du travail du démon. Alors voilà ce que disent les pères. Dieu a planté une vigne dont parle Isaïe, la vigne du Seigneur des armées, la maison d'Israël, il l'a entourée d'une clôture. Et cette haie, cette clôture, c'est la muraille de la ville, ou les anges gardiens. Donc les anges gardiens sont ceux qui sont supposés protéger notre âme, nous aider à protéger notre âme des invasions sataniques. Le pressoir est la parole de Dieu qui torture l'homme, quand elle contredit sa nature charnelle. Et la tour, c'est l'éminence de la loi qui monte au ciel depuis la terre et de laquelle, comme d'une tour de guet, l'arrivée du Christ peut être aperçue. Donc quand nous savons que le Christ va venir comme un voleur, il va venir sans prévenir, il s'agit que nous montions sur la tour pour vérifier quand notre Seigneur Jésus-Christ vient. Il ne faut pas être surpris. Si je dors au lieu de remplir ma garde, notre Seigneur Jésus-Christ va venir pendant mon sommeil, va rentrer dans la maison et je ne serai pas là pour l'accueillir. Et donc je serai rejeté parce que je ne suis pas là où le bon Dieu m'attendait. Donc vous voyez que ce refus de l'héritier, et ce massacre de l'héritier qui est tué par ceux qui étaient supposés recevoir en tout premier les fruits de l'héritage, et bien ce massacre de l'héritier représente pas simplement le peuple juif qui refuse notre Seigneur Jésus-Christ, mais représente aussi le peuple des pécheurs, si vous voulez, qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui le chassent de leur âme par le péché mortel, et qui ne veulent pas retrouver l'état de grâce par le sacrement de pénitence. Donc il reste dans le péché mortel, et donc le maître de la vigne qui va venir, que fera-t-il à ces vignerons infidèles? Il va les faire périr misérablement, il louera sa vigne à d'autres vignerons qui rendront les fruits en leur temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne suis pas là pour ouvrir la porte de mon âme à notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient frapper à la porte, et bien, comme les vierges folles et les vierges sages, les vierges folles ne sont pas là au moment où l'époux arrive, rentrent dans la maison, les vierges folles ne sont pas là parce qu'elles n'avaient pas prévu de l'huile pour remplir leur lampe et alimenter leur lampe à huile. Et donc, elles sont obligées de partir à acheter de l'huile, et quand elles reviennent, bien, c'est trop tard. L'époux est arrivé, est rentré dans la maison, la porte est fermée, et lorsqu'elle frappe, tambourine à la porte pour demander à rentrer dans le lieu du banquet, eh bien, il aurait répondu, je ne vous connais pas, allez-vous-en, partez. Vous voyez, donc, cela, c'est un avertissement pour nous, cette parabole peut être prise comme un avertissement. Notre Seigneur Jésus-Christ peut venir en nous comme un voleur, il va venir sans prévenir, et il s'agit que je sois prêt. Si je ne suis pas prêt, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne suis pas prêt, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ ne pourra pas utiliser mon âme pour y demeurer, partir ailleurs. Donc, dans l'Évangile, le vignoble est le royaume de Dieu, c'est-à-dire la doctrine qui est contenue dans la Sainte Écriture, et la vie sans tache d'un homme est le fruit de cette vigne. La lettre de l'Écriture est la haie qui entoure le vignoble pour que les fruits ne soient pas vus par ceux du dehors, la profondeur des oracles de Dieu et le pressoir du vignoble, dans lesquels ceux qui ont profité des oracles de Dieu versent leur étude qui en sont les fruits. Donc, de même que le pressoir va écraser, écrabouiller les noyaux d'olive pour en faire l'huile, mais de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa passion, va broyer également nos volontés propres pour qu'en sorte l'huile de la grâce sanctifiante. Cette huile, donc, est le symbole de la grâce. L'huile a toujours représenté la grâce dans la liturgie catholique. Le Fils qui est envoyé en dernier représente donc notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Les vignerons qui tuent l'héritier représentent les Juifs qui virent le Christ, qui le reconnaissent comme Fils de Dieu et le crucifient. Donc les vignerons, au contraire, savaient que le dernier envoyé était l'héritier du Père de famille. De même, les chefs religieux des Juifs savaient que le Christ était le Fils de Dieu et le crucifièrent non par ignorance mais par envie. Alors attention, encore une fois, je vous l'ai déjà dit souvent, mais il faut bien comprendre ce passage. Il ne faut pas croire que les seuls responsables de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sont les seuls Juifs. C'est faux. Les Juifs, bien sûr, sont responsables, ils sont coupables de déicide, mais nous sommes aussi coupables de déicide à chaque fois que nous commettons une faute grave. Quand je commets une faute grave, selon le mot du Saint Curé d'Ars, que je cite souvent, eh bien, il recrucifie, si je vis dans le péché mortel, je recrucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon cœur. Donc il n'y a pas que les Juifs qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi les pécheurs. Et notre Seigneur Jésus-Christ souffre certainement davantage de voir ses amis, à savoir les catholiques, le crucifier, que de voir ceux qui l'ont refusé depuis le départ, depuis l'arrivée du Nouveau Testament, les Juifs, refuser notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ peut dire, à propos de la plupart des Juifs, il peut dire ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Mais il ne peut pas dire ça pour nous. Nous, on sait très bien ce qu'on fait, parce qu'on a eu toutes les lumières de l'Évangile que les Juifs n'avaient pas. Donc les Juifs ont certaines excuses que nous, catholiques, nous n'avons pas. Donc attention. On entend beaucoup trop souvent des catholiques bon, qui accablent d'injures les Juifs. Bon, c'est vrai que le peuple juif est un peuple déicide, mais on n'en fait pas mieux. On ne fait pas mieux, et en fait, on fait pire. Parce qu'encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ va souffrir beaucoup plus s'il reçoit les coups pendant la Passion de gens qui prétendaient être ses amis. Alors les amis de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les catholiques. Donc notre Seigneur Jésus-Christ souffre beaucoup plus d'un péché commis par un catholique que du même péché commis par quelqu'un qui n'a pas la foi catholique. Le bon Dieu souffre certainement beaucoup plus du péché commis par un catholique de tradition que le même péché commis par un catholique moderniste qui ne sait même pas ce qu'il fait. Encore une fois, ils ont certaines excuses que nous, on n'a pas. Alors, quel est cet héritage? Au verset 38, il est dit, les vignerons, voyant le Fils, dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Qu'est-ce que c'est que cet héritage? Eh bien, les pères, il faut comprendre qu'en haut de la page 9 sur le polycopier, donc les pères nous font comprendre que l'héritage donné au Fils de Dieu, c'est la Sainte Église. Héritage qui n'a pas reçu la mort de son Père et conquis merveilleusement par sa propre mort. Donc le Christ fut jeté hors de Jérusalem, hors du vignoble par sa sentence de mort. Le Seigneur que les Juifs ont tué ressuscita des morts, châtia ces mauvais vignerons et donna le vignoble à d'autres vignerons, les apôtres. Donc ces catholiques qui viennent et qui vont prendre la vigne qui avait été au début préparée pour les Juifs, donc représente la substitution du peuple choisi par notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, le peuple élu au début, c'était le peuple des Juifs, c'est absolument indéniable. Mais comme malheureusement le peuple élu de l'Ancien Testament a refusé notre Seigneur Jésus-Christ quand il est venu s'incarner, eh bien le nouveau peuple élu actuellement, c'est le peuple des catholiques. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai expliqué je ne sais pas combien de fois, mais j'insiste parce que ça me semble très important, de même que le peuple juif a perdu sa prépondérance et l'autorité passée au peuple des catholiques, eh bien, de la même façon, si nous ne nous battons pas pour garder notre Seigneur Jésus-Christ en nous, ben, le bon Dieu va abandonner les catholiques comme il a abandonné les juifs, aller chercher un autre peuple. Et je suis absolument sidéré de voir le nombre de coups de téléphone, de messages que je reçois, de gens qui ne sont pas catholiques ou qui n'ont pas pratiqué depuis 40 ou 50 ans et qui demandent maintenant, qui cherchent maintenant à revenir vers le bon Dieu. On le voit tout le temps. Des jeunes qui me téléphonent, qui vivent en concubinage depuis 5, 10, 15, 20 ans parfois, et puis qui me disent, monsieur l'abbé, je viens à vous parce que je sens très bien que je fais quelque chose qui n'est pas normal. Moi, je ne suis pas très au courant parce que je ne connais pas mon catéchisme, je n'ai jamais été baptisé, ou j'étais baptisé comme gamin, mais je n'ai jamais eu la moindre éducation catholique de la part de mes parents. Je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, que vous pouvez m'aider. Et je vois le travail de la grâce, c'est extraordinaire, parce que dans bien des cas, je suis obligé de dire à ces jeunes qui me téléphonent, en disant, voilà, monsieur l'abbé, on vient au cubinage depuis 5 ou 10 ans, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Je ne vais pas leur passer la pommade sur le dos. Hein. Je vais leur dire la vérité en disant, écoutez, remerciez le bon Dieu s'il a mis en votre âme le désir de commencer à suivre sa loi. Hein. Mais le péché, c'est un péché. Vous vivez une situation qu'on appelle un concubinage. Les concubinaires, dit notre Seigneur, ne posséderont pas le royaume des cieux. Donc moi, je veux bien commencer à vous aider, à vous préparer au mariage. Donc je vais vous demander un certain nombre de choses tout de suite. Première chose que je demande, écoutez, vous allez commencer à bien étudier la doctrine de l'Église. Donc je leur demande d'aller sur le site dont je m'occupe, Dame Marie, et là d'aller chercher dans les cours sur les sacrements, les cours sur le mariage, en général, donc sur le sacrement de mariage, il y en a 7 cours, je crois, 7 ou 8 cours, d'une heure et demie chacun. Je dis, vous commencez pas à travailler ça, et puis juste après, sur le polycopier, la liste des conférences audio, j'ai mis toutes les conférences de préparation au mariage. Je dis, maintenant, vous allez aussi écouter tous les cours de préparation au mariage que j'ai mis sur Internet, sur le site, pour bien connaître la doctrine de l'Église. Ça correspond aux cours que je donne quand des jeunes futurs mariés se préparent au mariage et qui peuvent venir me voir tous les mois, par exemple ici, à Padiès, là où j'habite, dans le Tarn, eh bien, c'est le cours que je leur donne. C'est la première chose que je leur demande. Deuxième chose que je vais leur demander, je lui ai dit, bon, je vous envoie un examen de conscience très complet, un examen de conscience, vous avez bien besoin de faire une bonne confession générale. Une bonne confession générale, bon, évidemment, l'idéal, c'est qu'ils puissent venir faire la retraite, mais ce n'est pas toujours possible pour des raisons matérielles, des raisons professionnelles. Et je vous envoie un examen de conscience des retraites que j'utilise pour les retraites, je prépare une bonne confession générale pour pouvoir faire une bonne confession et retrouver la grâce du bon Dieu. Bon, il est évident, troisième chose que je vais leur demander, je vais leur dire, écoutez, si vous voulez retrouver la grâce du bon Dieu, une condition, c'est vous sortir du concubinage. Hein. Donc, dans certains cas, on peut tolérer, c'est une tolérance de l'Église, qu'ils restent ensemble à condition de sérieusement vivre comme frères et sœurs. Je vérifie bien que c'est possible, il est évident que s'ils me disent, bon, monsieur l'abbé, on va rester dans le même lit tous les deux, mais on vivra comme frères et sœurs, je refuse ça, parce que c'est pas possible. C'est trop demandé. Mais j'ai vu des gens qui font sérieusement leurs efforts en disant, bon, mais très bien, monsieur l'abbé, mademoiselle va coucher dans la chambre, et nous, et moi, l'homme, eh bien, je coucherai sur le divan du salon, par terre à la cuisine, hein, pour bien montrer au bon Dieu qu'on fait un effort. Bon, parce que dans certains cas, quand on peut, on demande la séparation, c'est sûr, c'est mieux. Mais c'est pas toujours possible, notamment quand il y a des enfants. La troisième chose que je leur demande, cette préparation du catéchisme, préparation par une bonne confession générale, troisième chose que je vais leur demander, c'est mettre la dévotion à la Sainte Vierge dans le ménage, dans le futur ménage, commencer à réciter le chapelet. J'ai vu des conversions admirables, et pendant toute la période de temps qui peut durer plusieurs mois, entre le moment où ils m'ont contacté, le moment où je peux régulariser la situation par le mariage, par le sacrement de mariage, qui vont pouvoir se donner en présence du prêtre, qui n'est que le témoin officiel de l'Église, eh bien, j'ai eu des conversions extraordinaires. Puis ce qui est très beau, c'est qu'une fois que ces jeunes se convertissent, qu'ils retrouvent la grâce du bon Dieu, donc petit à petit, je peux les préparer, et puis finalement, je les marie, ou je les fais marier par quelqu'un de confiance, et ils retrouvent la grâce du bon Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils ont retrouvé la grâce du bon Dieu? La première chose qu'ils vont faire, c'est à ce moment-là, ils n'ont qu'un désir, on le voit très bien, c'est de faire participer à d'autres personnes, que d'autres personnes autour d'eux, leurs amis, leurs connaissances, puissent recevoir la même grâce qu'eux-mêmes ont reçue. Et donc après, ça fait boule de neige, et puis du coup, je reçois d'autres coups de téléphone, d'autres personnes qui disent, vous savez, on connaît telle personne, et ils vivaient en concubinage, vous les avez mariés, vous avez régularisé la situation avec la grâce du bon Dieu, est-ce que vous pouvez faire la même chose avec moi? Et puis ça continue. Les théocratiens. Et je remarque que ces gens, souvent, sont des catholiques, mais qui n'ont pas pratiqué. Ils ont reçu le baptême il y a 25 ou 30 ans, mais ça s'arrête là. Ils n'ont pas reçu le catéchisme. Ils n'ont jamais eu l'exemple de parents chrétiens. Et on se demande comment ils peuvent se retrouver le désir du bon Dieu, le désir de l'état de grâce, alors qu'ils n'ont rien reçu sur le plan humain, sur le plan de la loi naturelle, pas grand-chose, à part le sacrement de baptême. Donc il y a déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est sûr. Mais on voit très bien que ces gens ne viennent pas, si vous voulez, des milieux traditionnalistes, ou avec des jeunes qui ont reçu une formation traditionnelle, catéchétique et doctrinale et morale dans des familles bien constituées. Mais très souvent, ce sont des gens qui, au contraire, n'ont rien reçu du tout, ou pas grand-chose en famille. Donc on voit très bien que la grâce du bon Dieu travaille. Rien. Alors, voyons ce que disent les pères, en haut de la page 9 sur le polycopier. L'héritage donné au Fils de Dieu est la Sainte Église. Donc, héritage qu'il n'a pas reçu à la mort de son Père, mais conquis merveilleusement par sa propre mort. Notre Seigneur Jésus-Christ fonde l'Église par sa mort. Le Christ fut jeté hors de Jérusalem comme hors du vignoble par sa sentence de mort. Le Seigneur que les Juifs ont tué ressuscita des morts, châtia ses mauvais vignerons et donna le vignoble à d'autres vignerons, les apôtres. Donc les apôtres vont prendre la place des scribes et des pharisiens. Ils vont prendre la place des membres du Sanhédrin qui étaient les meneurs du peuple juif. Et donc, comme les meneurs du peuple juif n'ont pas voulu remplir leur fonction qui consistait à amener les fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, eh bien, d'autres vignerons vont recevoir la fonction de gardien de la vigne et vont devenir ceux qui vont véritablement amener les âmes de bonne volonté vers le bon Dieu par la conversion. Et c'est le début de l'histoire de l'Église catholique. Bon, certes, la plupart des premiers catholiques, autant notre Seigneur Jésus-Christ, juste après sa mort, en fait, étaient en général des juifs convertis, c'est exact. Mais petit à petit se refait, si vous voulez, un peuple élu, un peuple d'élite. Un peuple élu, c'est un peuple d'élite. Hein. Élu, élite, ça vient de la même racine. Hein. C'est eligere. En latin, eligere, ça veut dire choisir. Donc c'est un peuple choisi, le peuple catholique est le peuple choisi du Nouveau Testament, comme le peuple des Juifs était le peuple choisi de l'Ancien Testament. Et donc il faut prier pour les Juifs, pour qu'ils se convertissent. Et saint Paul a prédit qu'à la fin des temps, il y aura la conversion, au moins d'un reste du peuple juif. Bon, c'est une phrase très difficile à interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais il y aura des conversions. Dieu merci, il y en a. Bon, c'est pas très fréquent, hein, conversion de Juifs. Moi, j'en ai eu en 40 ans de sacerdoce. J'ai dû en voir une ou deux. Une ou deux. J'ai un cas en mémoire, petit Juif qui a suivi la retraite. À New York, et qui s'est complètement converti, qui est devenu une bonne catholique. Alors, quel est le sens moral de cette parabole de notre Seigneur? Donc, on le trouve donné par les pères de l'Église à la page 9, moralement parlant, donc anthropologiquement parlant, c'est pareil. Chacun d'entre nous, nous avons un vignoble à porter, à garder, reçu le jour de notre baptême qui doit être cultivé et donner du fruit. Donc, ce vignoble qui nous est confié, c'est le vignoble de notre âme. Et le fruit que notre Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire du vignoble, nous ne sommes que les gens qui travaillons sur ce vignoble, nous ne sommes pas le propriétaire du vignoble. Le propriétaire du vignoble, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, il attend des vignerons, le produit du vignoble. Le produit du vignoble, c'est le vin, la vigne. Et donc cette vigne représente justement la réponse à la grâce sanctifiante. Donc le bon Dieu attend de son vignoble une réponse à sa grâce. Donc les serviteurs qui sont envoyés, c'est le verset 34, Donc il envoya, le maître de la vigne envoya ses serviteurs aux vignerons pour recueillir les fruits de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Donc ces serviteurs qui sont envoyés sont la loi, les psaumes et les prophètes qui sont lus et que nous devons travailler selon leur instruction. Mais ces serviteurs ne sont pas acceptés par les vignerons qui vont les battre, les tuer et les lapider. Qu'est-ce que ça représente? Donc le serviteur est battu et rejeté quand la parole de Dieu est condamnée ou pire, blasphémée. Il tue l'héritier autant que faire se peut, celui qui écrase sous ses pieds le fils et le fait malgré l'esprit de grâce. Donc le vigneron malhonnête est châtié et le vignoble confié à un autre quand le don de la grâce méprisé par les orgueilleux est donné aux petits. Donc vous voyez un sens mystique qui est très beau là. Non seulement cette histoire de vignerons qui sont remplacés parce qu'ils ne font pas leur travail représente, je vous l'ai déjà dit, la substitution du peuple catholique qui prend la place du peuple juif, mais représente aussi, ici c'est clair dans les pères, représente aussi la conversion possible de ceux qui n'ont pas fait leur travail au début, n'ont pas été des bons gardiens, et qui vont se convertir avec la grâce du bon Dieu, et quand ils vont accepter le don de la grâce. Donc ça représente aussi un travail de conversion personnelle. Encore une fois, là, il y a un grand avertissement, toujours le même, des pères de l'Église, l'avertissement est très fort. Le vigneron malhonnête est châtié. Et ce vigneron malhonnête châtié, c'est pas simplement encore une fois le peuple juif, c'est aussi chacun d'entre nous, eh bien, chers frères, c'est vous et c'est moi. Je suis le vigneron malhonnête à chaque fois que je commets une faute grave. Je suis le vigneron malhonnête à chaque fois que je désobéis à la loi du bon Dieu. Et donc, comme les juifs ont été châtiés, de la même façon, je serai moi aussi châtié, et le vignoble sera confié à un autre, quand le don de la grâce méprisé par les orgueilleux est donné aux petits. Et d'autres vont prendre ma place. Vous voyez, il faut méditer là-dessus et ne pas oublier que le bon Dieu demande beaucoup plus de ses fidèles, surtout de ceux qui ont compris un peu ce qui se passe. Vous voyez ? Donc le Christ est la pierre, donc cette pierre dont on parle l'Évangile. Hein ? Au verset 42, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient, celle-là même est devenue à tête de langue. C'est le Seigneur qui a fait cela, c'est une chose admirable à nos yeux. Verset 42 du chapitre 21 de Saint Matthieu. Donc cette pierre, c'est le Christ. Et les bâtisseurs sont les enseignants juifs qui ont rejeté le Christ et qui auraient dû être les premiers à recevoir les fruits de la passion. En disant, cet homme n'est pas Dieu. Il faut associer aussi, on peut même remonter dans l'histoire de l'humanité, ces bâtisseurs qui rejettent la pierre d'angle, c'est le démon qui, derrière, avec son chef, Lucifer, hurle à Dieu, je ne servirai pas. C'est Adam et Ève qui refusent l'ordre de Dieu de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui refusent donc de s'humilier, d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui se révoltent contre Dieu, qui se prennent comme le démon pour le bon Dieu lui-même, et qui vont tout perdre. Bon, le démon a tout perdu, il s'est retrouvé en enfer pour toute l'éternité. Bon, Adam et Ève, ils ont fait pénitence, heureusement, ils n'ont pas tout perdu, puisque la tradition pense que Adam et Ève sont sauvés. Cependant, ils ont dû faire pénitence pendant bien longtemps. Hein. Entre Adam et Ève et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé à peu près 7000 ans. Donc il y a eu 7000 ans d'attente. Les Adam et Ève ont dû attendre, après leur mort, dans un lieu qu'on appelle le paradis d'Abraham, donc le lieu des limbes pour tous les hommes qui attendaient l'ouverture du ciel, qui était retardée, justement, et que seul notre Seigneur Jésus-Christ allait pouvoir ouvrir la porte du ciel par sa résurrection d'entre les morts. Donc les bâtisseurs sont les enseignants juifs qui ont rejeté le Christ en disant, nous ne servirons pas, cet homme n'est pas Dieu. Il est devenu la tête d'angle, car il est l'union des deux côtés entre la loi et les gentils. Les mystères du royaume de Dieu sont les divines écritures que le Seigneur avait d'abord confiées au peuple, qui avait reçu les oracles divins, mais qu'il a transférées aux gentils qui donnèrent du fruit. Vous voyez que les pères de l'Église ici insistent beaucoup sur cette substitution donc du peuple des catholiques qui prend la place du peuple élu de l'Ancien Testament, parce qu'on n'est plus à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, strictement parlant, commence au moment où le rideau du temple est déchiré en deux, c'est au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ fait basculer, si vous voulez, le monde entier de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Car, disent les pères, la parole divine ne peut être donnée à personne sauf à ceux qui portent des fruits. Et le royaume de Dieu n'est pas donné à ceux dans lesquels le péché règne. Ainsi, lorsqu'un chrétien pêche, il périt non pas parce que le Christ le détruit, mais parce qu'il se détruit lui-même, soit par la grandeur de son péché, soit à cause de son rang. Mais les non-croyants sont détruits beaucoup plus profondément. Donc encore une fois, prenons garde à nos responsabilités. Celui qui a plus reçu devra donner beaucoup plus. Rappelez-vous la parabole des talents. Celui qui a reçu plus de talents doit donner plus au maître de la maison que celui qui a reçu très peu de choses. Nous avons reçu aujourd'hui bien plus que les Juifs de l'Ancien Testament. N'oublions pas que dans le tabernacle des Juifs de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les tables de la loi, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait un vase qui contenait la manne. Donc des choses matérielles, certes, très, très nobles, très respectables. Alors bon, on n'a plus ces tables de la loi, mais imaginez, ces tables de la loi qui ont été gravées par les doigts de Dieu même. Hein. Mais nous, on a bien plus que ça. Dans le tabernacle, on n'a pas une urne avec la manne, on n'a pas la verge d'Aaron qui a fleuri, on n'a pas les tables de la loi, on a le bon Dieu lui-même. Dans le ciboire qui est conservé dans le tabernacle, pour la messe catholique, hein, je ne parle pas des messes protestantes, des messes de l'église de Vatican II, je parle de la messe catholique. La messe catholique, notre Seigneur Jésus-Christ, avec la messe catholique, notre Seigneur Jésus-Christ descend véritablement sur l'autel. Donc le tabernacle de l'Église catholique contient véritablement, substantiellement, le Créateur et le Rédempteur de l'univers, le bon Dieu lui-même, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc il faut un petit peu, c'est ça qu'on peut comparer, moi j'aime bien comparer le tabernacle à la Très Sainte Vierge Marie, quand elle vient d'accepter, après la visite de l'ange Gabriel, le jour de l'Annonciation, quand elle vient d'accepter de devenir la Mère de Dieu, elle est un tabernacle vivant. L'expression n'est pas de moi, elle est des pères. Mais ce tabernacle vivant, c'est le Saint très pur et très Sainte Vierge Marie qui contient le même Dieu qui est contenu dans le tabernacle. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le bon Dieu va accepter de dépendre des paroles d'un homme, un simple homme, le prêtre. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, du haut du ciel, entend les paroles du prêtre même, je dirais même d'un prêtre qui est malheureusement perdu de mœurs, peut-être, qui vit dans le péché, mais qui est véritablement prêtre, quand il entend ce prêtre dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », Dieu vient et vient de nouveau s'incarner, en quelque sorte, pour remplacer la substance du pain, pour qu'elle devienne la substance du corps du Christ, et remplacer la substance du vin pour qu'elle devienne la substance du sang du Christ. Donc le bon Dieu obéit à la voix d'un pécheur. Chaque fois que je célèbre la messe, moi j'y pense, ça fait littéralement trembler. Au moment où je prononce les paroles de la consécration, j'avais entre mes doigts une hostie de pain, et d'un seul coup, au moment où je prononce les paroles de la consécration, même si avec mes yeux corporels je vois rien, avec les yeux de la foi, je sais, je n'ai plus entre les mains un bout de pain, j'ai entre les mains le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est la même chose avec le précieux sang. Quand je prononce les paroles de la consécration, la deuxième consécration, je n'ai plus dans le calice la substance du vin, mais la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc ces textes sont très fermes des pères de l'Église. Il y a malheureusement des gens qui vont même jusqu'à dire que les plus grands antisémites sont les pères de l'Église. C'est totalement faux, parce que justement, les pères de l'Église ne désiraient qu'une seule chose, c'est la conversion du peuple juif. Mais ils étaient obligés de reconnaître cette transformation, ce transfert de l'autorité du peuple des juifs à l'autorité du peuple des catholiques, du peuple des gentils. D'où cette phrase des pères, les mystères du royaume de Dieu sont les divines écritures, que le Seigneur avait d'abord confié au peuple qui avait reçu les oracles divins, mais qu'il a transféré aux gentils qui donnèrent du fruit. Donc si les juifs infidèles ont été condamnés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a mis à leur place le peuple des catholiques, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui quand il voit ceux qui sont en principe chargés de conserver le dépôt de la foi, à savoir Bergoglio et ses petits copains à Rome? Mais qu'est-ce que font ces gens qui sont en principe chargés de garder le dépôt de la foi? Au lieu de garder le dépôt de la foi, ils détruisent complètement le dépôt de la foi. Quand on voit déjà le châtiment du déicide pour les juifs, c'était terrible, hein. C'était la destruction de la ville de Jérusalem. Je vous ai déjà dit, lu le texte de l'historien Joseph, pourtant un historien juif, l'historien Joseph qui explique justement l'abomination, si vous voulez, qu'a été la destruction de toute la ville de Jérusalem. Et qui finit son texte en disant on a vendu notre Seigneur Jésus-Christ pour 30 deniers, et au moment de la destruction de Jérusalem, on vendait 30 juifs pour un denier, comme esclaves. Donc nous avons nous aussi nos responsabilités, et encore une fois, si les catholiques sont devenus infidèles, et c'est malheureusement le cas maintenant dans la multitude de tous les pays du monde, à peu de choses près, surtout en France, Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, notre Seigneur Jésus-Christ va agir avec nous comme il agit avec les Juifs. Il va chercher notre peuple. Il le voit très bien, moi je le vois de plus en plus. Je le voyais mal quand j'étais dans la fraternité. Maintenant, dès que j'ai quitté la fraternité, je suis un peu à l'extérieur, je vois peut-être mieux certaines choses avec la grâce du bon Dieu. Je vois bien que le bon Dieu appelle de plus en plus des non-catholiques qui prennent la place des catholiques, parce que les catholiques ne veulent pas prendre la responsabilité. Car la parole divine, disent les pères, ne peut être donnée à personne, sauf à ceux qui portent des fruits. Le royaume de Dieu n'est pas donné à ceux dans lesquels le péché règne. Lorsqu'un chrétien pêche, il périt non pas parce que le Christ le détruit, mais parce qu'il se détruit lui-même, soit par la grandeur de son péché, soit à cause de son rang. Mais les non-croyants sont détruits beaucoup plus profondément. Ça veut dire à cause de son rang, parce qu'il est évident que un prêtre qui pêche fait beaucoup plus de peine à notre Seigneur Jésus-Christ qu'un laïc qui pêche. Hein? Alors, bon, il y a quand même une différence énorme. C'est pour ça que les pères disent, les non-croyants sont détruits encore plus, beaucoup plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, catholiques, on a quand même, avec la grâce du bon Dieu, même après un péché grave, on a, heureusement, l'accès au sacrement de pénitence. Non, l'accès au sacrement de pénitence, c'est quelque chose d'assez beau. Il y a quelques jours, j'ai reçu comme ça un coup de téléphone de quelqu'un donc qui m'a avoué une faute et qui me disait, monsieur l'abbé, j'ai un grand, grand désir de me confesser, mais je n'ai pas de prêtre là où je suis. Il n'y a rien, personne. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas avoir accès à un prêtre avant un mois ou deux, et qu'est-ce que je fais en attendant? Donc, je me parlais de la miséricorde du bon Dieu pour le pécheur repentant, et que s'il était vraiment repentant de ses péchés, par pur amour du bon Dieu, il recevrait du bon Dieu la grâce d'un acte de contrition parfaite, qui détruit le péché mortel. Bon, moi, évidemment, j'ai un grand, grand désir de me confesser. Deo gratias, une très bonne chose que vous ayez un grand désir de vous confesser maintenant. Regrettez déjà votre péché passé, faites pénitence de ce péché, faites attention de ne pas retomber en éloignant les occasions prochaines volontaires de péché grave, et puisque vous ne pouvez pas avoir un prêtre avant un mois ou deux, eh bien, attendez l'arrivée de ce prêtre et vous irez vous confesser avec l'arrivée de ce prêtre. Et je vous assure que quand le prêtre arrive avec des gens comme ça, c'est le bon Dieu qui débarque, hein. Le bon Dieu qui débarque. Et moi, j'ai eu des cas de gens qui avaient fait des centaines et des centaines de kilomètres pour être là une heure à l'avance avant l'arrivée du prêtre, pour être sûr de pouvoir se confesser, parce qu'ils voulaient non seulement pouvoir se confesser pour retrouver l'état de grâce, mais aussi ils voulaient pouvoir communier. Et dans certains cas, entre autres aux États-Unis, on y a beaucoup plus de confessions qu'en Europe, et il fallait être au moins une heure avant toutes les chapelles le dimanche pour avoir le temps de confesser tout le monde avant le début de la messe. J'ai eu même certains cas, je me rappelle une chapelle que j'ai eu la charge pour un certain temps où les fidèles s'étaient mis d'accord. Écoutez, monsieur l'abbé, Nous, on est fidèles, on vient de très loin pour venir à la messe. On a tous besoin de nous confesser, parce qu'il y a la messe ici une fois par mois. On a tous besoin de se confesser. Ah, monsieur l'abbé, on est d'accord. On a parlé entre nous. Eh bien, nous, on attend. Il y en a qui ont pu se confesser tout de suite. Dès que vous arrivez, vous commencez les confessions. J'arrive en général une heure avant. Vous commencez les confessions. Et puis, monsieur l'abbé, on est d'accord entre nous. On commencera la messe. Vous commencerez la messe lorsque la dernière personne se sera confessée. Et en attendant, bien, on dit le chapelet, nous, on donne un petit cours de catéchisme aux enfants, éventuellement on papote un peu, vous apprenez, puisque vous attendez pour la confession, vous pouvez aussi un petit peu parler entre vous, c'est important qu'il y ait une vie familiale, une vie paroissiale qui se forme, et puis parfois on avait 2 heures de confession, et les gens attendaient pendant 1 heure, pour que tout le monde puisse, parfois même 2 heures, pour que tout le monde puisse se confesser, et puis que tout le monde puisse communier. C'était magnifique, j'aimais beaucoup cette chapelle. Donc, méditons cette parole des pères. Le vigneron malhonnête est châtié, le vignoble confié à un autre, quand le don de la grâce méprisé par les orgueilleux est donné aux petits. Donc. D'autres phrases à méditer. Les mystères du royaume de Dieu sont les divines écritures que le Seigneur avait d'abord confiées au peuple qui avait reçu les oracles divins, mais qu'il a transférées aux gentils qui lui donnèrent du fruit. Avançons dans ces explications des pères de l'Église. Donc le Christ vise par sa parabole les scribes et les pharisiens, donc ses adversaires, en utilisant la prophétie d'Isaïe qui commence ainsi son chapitre 5 « Je vais chanter pour mon bien-aimé, le Christ incarné ». Je vais chanter le chant de mon bien-aimé au sujet de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. L'homme qui plante une vigne est Dieu qui fonde l'église ou la synagogue. Seigneur, vous aviez arraché d'Égypte une vigne et vous aviez chassé les nations pour la planter, planter la synagogue ou le temple des Juifs. Notre Seigneur Jésus-Christ donc a planté une vigne et maintenant il est temps de venir récolter le fruit de son travail. Donc il s'occupait de cette vigne, il a pris des vignerons qui sont occupés de la vigne, qui ont chassé les bêtes sauvages pour qu'elles ne viennent pas grignoter les raisins, et qui s'est arrangé pour que ces vignerons fassent leur travail de tout nettoyer, de tout préparer. Et maintenant, au bout d'un certain temps, le bon Dieu a le droit de venir dans son âme, l'âme qu'il a créée, pour récupérer les fruits. Alors, ici, il y a d'autres, au milieu de la page 9 sur le polycopier, là, et le pressoir, la tour. Érigé dans le vignoble signifie que Dieu a procuré à son église avec abondance toutes les choses nécessaires. Selon saint Jérôme, la haie représente le mur de Jérusalem, où les princes courageux comme David ou les Maccabées. Le pressoir est l'autel où le sang de la victime va couler. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, juste après avoir célébré la Sainte Messe, le jeudi saint, il est allé au lieu du pressoir. Le lieu du pressoir, c'est Gethsémanie. Le pressoir est donc l'autel où le sang de la victime va couler. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va au lieu du pressoir pour bien expliquer que son cœur va être serré comme dans un étau, comme dans un pressoir, qui va écrabouiller le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour en faire sortir la grâce qui purifie, la grâce qui éclaire, surtout la grâce qui pardonne. Donc ce pressoir représente aussi tropologiquement non seulement le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi les martyrs. Les martyrs qui eux aussi vont être écrabouillés par la haine des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ et qui vont, si vous voulez, participer plus directement encore que les autres à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Au sens mystique, donc c'est toujours l'analyse de ce texte, au chapitre 21, verset 33, donc l'évangéliste dit que la ville était entourée d'une haie, le chef de père famille va y creuser un pressoir et y bâtir une tour. Bon, avant d'y affecter des vignerons. Donc mystiquement, la tour désigne les prophètes. Pourquoi ? Parce que de même qu'au sommet de la tour se mettaient les soldats qui surveillaient la vallée pour prévenir les habitants de la vallée de l'arrivée de l'envahisseur. Donc quand les barbares arrivaient, en général, ils allumaient un grand feu sur le sommet de la tour, et la tour suivante, qui était peut-être à 15 km de là, voyait le feu 15 km avant, allumait même un feu pour avertir toutes les tours des tours avoisinantes, pour que tout le monde sache, attention, les barbares arrivent, donc il faut relever les ponts-levis, il faut mettre tout le peuple à l'abri dans les châteaux forts, il faut que toutes les soldats se mettent au combat, car les ennemis arrivent. Donc le Christ est la pierre. Il faut que je retrouve mon passage, il est là, au milieu de la page 9. La haie, le pressoir et la tour érigée dans le vignoble signifie que Dieu a procuré à son Église avec abondance toutes les choses nécessaires pour sa survie. Selon saint Jérôme, la haie représente le mur de Jérusalem où les princes courageux comme David et les Maccabées, et le pressoir est l'autel où le sang de la victime va couler. Donc tout ça est symbolisé par le sacrifice de la messe. Donc mystiquement, c'est là où j'en étais, la tour désigne les prophètes et les pasteurs et les maîtres, avec les rois et les princes du peuple. Donc les serviteurs envoyés par Dieu à la vigne, à la synagogue, donc, pour en récolter les fruits, sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres prophètes, que les Juifs tuèrent parce qu'ils leur reprochaient leurs vices, allant jusqu'à en lapider comme Jérémie lui-même. Qui fut lapidé, saint Jérémie, fut lapidé, et beaucoup des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, et même des anciens prophètes de l'Ancien Testament, ont été persécutés par les Juifs, parce que les Juifs voulaient demander à leur guide de leur donner des paroles agréables, des paroles faciles à entendre. Et les prophètes annonçaient ce que bon Dieu voulait annoncer, qu'il n'est pas toujours facile à entendre. On voit très bien aujourd'hui comment, dans l'Église de Vatican II, ils veulent une nouvelle doctrine facile à entendre pour pouvoir adapter l'Église catholique au monde moderne, alors que c'est le contraire qui doit se faire, à savoir que le monde moderne doit s'adapter à notre Seigneur Jésus-Christ, et pas l'inverse. Donc le Christ renvoya à sa vigne des serviteurs, une deuxième fois, encore plus nombreux que la première fois, espérant par sa diligence et son amour renverser la malice des vignerons. Et c'est saint Jean Chrysostome qui fait remarquer que malgré tous ces degrés de malice, la miséricorde de Dieu ne cessa d'augmenter. Et plus la miséricorde divine augmentait, plus la malice augmentait également. Plus notre Seigneur Jésus-Christ montre des preuves de son amour, plus malheureusement les hommes modernes sont imperméables à cet amour. C'est terrible, terrible, terrible. Donc on voit les gens du monde moderne aujourd'hui aller s'intéresser à tous les gourous possibles et imaginables, alors qu'ils ont sous la main notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est encore là dans les tabernacles, dans lesquels, sur les autels, sur lesquels la messe traditionnelle est encore célébrée. En dernier recours, donc Dieu leur envoya son Fils, le Christ, maintenant incarné, comme héritier de la synagogue. Mais les scribes le massacrèrent et le crucifièrent hors de la cité de Jérusalem, sur le mont du Calvaire, voulant en cela présider, diriger la synagogue, tout en s'enrichissant encore davantage. Donc ils rejettent notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va être obligé d'aller chercher d'autres personnes pour prendre leur place. Donc ici, en bas de la page 9, les pères sont très clairs, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, le vignoble que chacun doit cultiver, c'est son âme. Pour un curé, sa paroisse, pour un évêque, son diocèse, pour un magistrat, c'est l'État, afin qu'il puisse apporter les fruits des bonnes œuvres et des vertus. Donc la haie représente les lois et les constitutions, les gardiens sont les anges, la tour, la méditation, le pressoir, la tribulation, mortification, la croix. Et on retrouve toujours la même idée, le vignoble, c'est notre âme. Il y a des tas d'ennemis qui vont chercher à envahir cette âme pour qu'elle ne puisse plus donner de fruits. Eh bien, je dois être responsable de mon âme, je dois veiller à ce que l'âme soit toujours propre, que les mauvaises herbes soient arrachées, que les animaux ne viennent pas grignoter les raisins, encore une fois, et que pour que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra sans prévenir, eh bien, il puisse y trouver du fruit. C'est pour ça que je dois utiliser la prière, le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, pour que mon âme soit toujours correcte. Il fera périr misérablement ces misérables, disent les pères. Les mauvais vignerons, les mercenaires de l'Église, les scribes avec ceux qui les suivent, qui tuèrent le prophète, les prophètes et le Christ, Dieu les détruira en cette vie sous Titus et Vespasien et en enfer par les démons. Donc ça, c'est une allusion à la destruction de la cité de Jérusalem en 71. Donc le fruit du vignoble de l'Église de Dieu est manifesté par la conversion du monde entier à la foi et la sainteté du Christ, surtout dans la constance des milliers de vierges et de martyrs. Donc la rejection des Juifs et la conversion des gentils sont prédites par le Christ. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en produira des fruits. Oui, on retrouve encore une fois, ça c'est Saint Matthieu chapitre 21, verset 33, donc on vient de voir. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et qu'il sera donné à une nation qui en produira des fruits. Donc là encore, c'est le même avertissement. Si vous n'êtes pas fidèles, il va y avoir des gens qui vont prendre votre place. C'était valable pour les Juifs, c'est valable pour les catholiques, et c'est valable surtout pour nous aujourd'hui. Alors le temps passe, et déjà, nous allons arrêter là, parce que il y a tellement de choses à expliquer sur ces magnifiques textes. Donc si Dieu veut, nous continuerons, terminerons le chapitre 21 la prochaine fois. Alors, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit à d'autres cours, que j'ai encore de la place pour les 3 prochaines retraites, notamment pour la retraite du lundi 27 mai au samedi 1er juin. J'ai 2 places. Voilà, nous avons terminé par une prière. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pilice, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.